Je vous invite à prier pour que le Seigneur nous éclaire dans cette lecture. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Encore faut-il que nous ayons les yeux ouverts. Alors Seigneur, nous t'en prions. Montre-nous le chemin par ta parole. Éclaire pour nous ce que tu veux nous dire au travers de ces mots que nous trouvons dans la Bible. Et que tout cela se transforme en joie, Seigneur. En joie, en paix, en amour. Ta parole est créatrice. Eh bien, qu'elle crée dans nos cœurs quelque chose de nouveau, quelque chose de joyeux, quelque chose de beau. Amen.
Amen.
Alors, c'est l'évangile du jour, c'est Marc. L'évangile selon Marc. Nous allons lire un texte très court. Donc, Marc, premier chapitre, les versets, on va lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Alors, Marc 1, 7 à 11. Il prêchait, donc Jean-Baptiste prêchait, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux : Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Alors, certaines traductions disent « En qui j'ai mis tout mon plaisir ?» Petit texte très connu. En général, quand on veut prêcher sur le baptême de Jésus, on choisit plutôt l'évangile de Matthieu, parce que Matthieu est beaucoup plus prolixe en détails, beaucoup plus généreux. Dans tous les petits détails, on a plus de choses à dire. Mais moi, j'y vois quand même un avantage dans ce récit de selon Marc. C'est que je me dis que s'il a voulu faire court, au moins il est allé à l'essentiel. Donc on est sûr d'avoir lu ce qui est essentiel dans le baptême de Jésus. Vous avez par exemple, il n'y a pas, vous savez, l'insurrection de Jean-Baptiste qui se rebiffe, qui dit « Comment toi Seigneur, tu viens me demander le baptême alors que c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ?» Tout ça n'apparaît pas dans l'évangile selon Marc. Alors, puisqu'on a là l'essentiel, on va essayer ce matin, de cerner, de comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, au bord du Jourdain, ou dans le Jourdain, et quelles répercussions ça peut avoir sur nos vies, sur notre foi. Première chose que je remarque, c'est que, dans le fond, le texte dit « Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain », et au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, donc, et l'Esprit descendre sur lui. Alors, quelque chose que, dans le fond, on ne remarque pas toujours, c'est que Jésus reçoit non pas un, mais deux baptêmes simultanés. Baptême d'eau, le baptême de Jean-Baptiste, et le baptême du Saint-Esprit en même temps, quasi en même temps. À ma connaissance, il n'y a aucun personnage dans la Bible, je ne connais personne qui ait reçu ce double baptême en même temps. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il faut remarquer, et on en reparlera un petit peu plus tard. Donc Jésus reçoit deux baptêmes, et je crois pouvoir dire, sans risque de trop me tromper, que les deux baptêmes ne sont pas égaux. Des deux, il y en a un qui est infiniment plus grand, qui a une portée infiniment plus grande, c'est bien sûr le baptême du Saint-Esprit. Ce qui me permet de dire ça, c'est que Jean-Baptiste lui-même, je l'ai lu, Jean-Baptiste dit, il vient après moi, donc « Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Jean-Baptiste a l'air de dire « Mon petit baptême à moi, c'est en attendant, c'est l'apéritif. » Vous voyez ce que je veux dire, hein ?« Attendez de voir le plat de résistance. Lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Il présente l'Esprit Saint comme un baptême infiniment plus grand. Et pourtant, vous voyez, il y a quelque chose de bizarre, quelque chose de très bizarre. Dans la plupart de nos Bibles, nous avons des titres. qui facilite la recherche, ce n'est pas dans le texte d'origine, mais des titres. Et en général, on trouve au-dessus de ce chapitre baptême de Jésus, baptême au singulier. Ah, c'est bizarre. Bon, je le fais remarquer au passage, vous voyez, comme quoi on est canalisé, on se dit oui, c'est le texte sur le baptême de Jésus, mais quel baptême ? On devrait dire plutôt Jésus reçoit le Saint-Esprit, ça devrait être le titre, à mon sens. Alors, à quoi ça correspond pour Jésus, et par extension, à quoi ça correspond de recevoir le Saint-Esprit pour tout être humain qui le reçoit ? Qu'est-ce que ça lui apporte ? Qu'est-ce que ça lui amène ? Je crois d'abord utile de dire ce qu'on voit immédiatement après ce texte, c'est que Jésus démarre au quart de tour dans son ministère, dans sa mission. Et il démarre très fort. Il démarre très fort puisque le verset qui suit, après que Jean, aussitôt, alors c'est le verset 12, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert pour y être tenté, etc. Vous connaissez l'histoire de la tentation de Jésus. C'est-à-dire qu'il part très fort. Alors, moi, je fais une relation, je dis, reçois le Saint-Esprit, et immédiatement, presque, j'allais dire, en sortant de l'eau, il est encore mouillé, il attaque son ministère plein d'eau. Alors, est-ce que par hasard, le Saint-Esprit ne serait pas... est-ce qu'on n'aurait pas là une sorte de cérémonie de consécration ? C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient pour fixer la mission à Jésus. J'ai d'ailleurs même un indice... De plus, c'est la colombe, je vais vous en parler. Parce que je me suis dit, tiens, c'est curieux, cette colombe-là. Alors, on est d'accord, c'est un signe, hein, la colombe qui descend. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. C'est le signe qui représente le Saint-Esprit, d'accord ? De la même façon, quand, à la Pentecôte, les disciples, qui deviennent donc les apôtres, reçoivent le Saint-Esprit, eux, ils reçoivent sous forme d'une langue de feu. Le Saint-Esprit sous cette forme. Alors tiens, là aussi le Saint-Esprit n'est pas une langue de feu, c'est un signe. Alors pourquoi ? Pourquoi les disciples n'ont pas eu droit à une colombe ? Ou inversement, si vous préférez, pourquoi Jésus n'a pas eu droit à une langue de feu ? Après tout, on peut se poser la question. Alors, moi je vous livre un peu l'explication qui m'est venue à l'esprit, c'est que précisément, le Saint-Esprit en descendant avec un signe, révèle quelle est la nature de la mission qu'il va confier à Jésus ou la mission qu'il va confier aux apôtres. Je m'explique. La colombe, depuis la nuit des temps, la colombe est un symbole de paix et puis d'espérance, n'est-ce pas ? Vous voyez dans la Genèse l'histoire de Noé, hein, qui lâche une colombe et c'est cet oiseau qui va lui ramener un brin d'olivier ou de choubou, de ses oliviers, qui va faire naître l'espérance comme quoi, ça y est, les eaux sont en train de baisser, qui va retrouver... Alors, lisez le texte dans la Genèse, c'est une histoire merveilleuse. Donc, on voit, la colombe est un symbole, oui, à la fois de paix et d'espérance. Eh bien, Jésus, qu'a-t-il fait d'autre dans son ministère que venir apporter la paix et l'espérance ? La paix, j'entends par la paix, la réconciliation entre Dieu et les hommes, réconciliation qui était impossible à cause du péché, et donc par là, à apporter l'espérance dans le cœur des hommes. Donc, d'où cette colombe. Les apôtres, le jour de la Pentecôte, alors, qu'est-ce qu'ils font tout de suite après ? Tout de suite après avoir reçu le Saint-Esprit, ils descendent dans la rue et ils se mettent à parler dans toutes les langues qui étaient connues à l'époque, s'il y avait beaucoup d'étrangers qui étaient venus à Jérusalem, et avec une fougue, avec un zèle, avec un enthousiasme exceptionnel. D'où les langues, hein, puisque c'est avec la langue qu'on parle, les langues de feu. De feu, hein, le feu de Dieu, presque dire. Donc vous voyez, je vois ces signes comme annonciateurs de la mission qui vient avec le Saint-Esprit sur Jésus, sur les disciples. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, nous, quand nous recevons le Saint-Esprit, parce que nous recevons aussi le Saint-Esprit, nous l'invoquons en tout cas, parce que nous le recevons, point d'interrogation, mais nous l'invoquons, est-ce que le Saint-Esprit vient aussi nous fixer une mission ? Alors, il faut être clair, le Saint-Esprit, il faut casser un petit peu des idées reçues, le Saint-Esprit, c'est pas une distinction honorifique comme ça, que le Seigneur décerne aux uns aux autres qui seraient un peu plus spirituels, un peu plus chrétiens que les autres, oui, c'est pas... Voilà, ce n'est pas non plus un label de sainteté. Hein, celui qui reçoit le Saint-Esprit, ben, il a déjà une petite auréole qui commence à se former au-dessus de la tête. Bon, bref, vous avez compris, le Saint-Esprit, c'est pas comme une médaille qu'on accroche au veston d'un ancien combattant, hein, pour dire celui-là, il s'est distingué, il est mieux que les autres. Non, le Saint-Esprit a des vues beaucoup plus pratiques lorsqu'il descend sur les hommes. Alors, vous allez me dire, là, on commence à être un petit peu inquiet parce qu'on se dit, ouh, là. Si le Saint-Esprit vient sur moi, ça veut dire qu'il m'amène une mission, un travail, une tâche à accomplir de la part du Seigneur, pour le service du Seigneur. Et vous savez, on a tous en soi un petit côté Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Quand le Seigneur lui dit, tiens, tu vas me rendre un petit service, là, tu veux aller à Ninive, annoncer à cette ville où se commet des abominations, etc., c'est tous des monstres, tu vas aller leur annoncer que je vais raser la ville et eux avec. Ouh, là, Jonas, il se dit, ouh, pas bon, là. Et puis, il essaye de se sauver. Il refait, d'ailleurs, le péché d'Adam, qui court se cacher loin de la face de Dieu. Bien sûr, il est rattrapé, etc. Mais voyez, on a tous ce petit côté, une mission, un travail, oui, Seigneur, mais le voisin, il est bien aussi. Il pourrait le faire. Moi, tu sais, je suis pas très ceci, je suis pas assez cela, j'ai pas telle ou telle qualité. Ah! Intéressant ça, effectivement. Eh bien, c'est la deuxième partie du problème, si tant est qu'il y ait un problème, c'est que je crois que le Saint-Esprit, donc lorsqu'il descend sur un homme, il vient pour le consacrer à Dieu. C'est ça le terme qu'il faut utiliser. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur nous, il nous consacre à Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'on est parti pour une mission, on n'est pas tous appelés à aller annoncer l'évangile en Papouasie chez les cannibales. Non. Pourquoi pas, mais non. Par contre, il y a forcément cette dimension de consécration. Si le Saint-Esprit vient sur vous, c'est pour vous tourner vers Dieu. J'ai cette image que nous sommes tous par nature, en tant qu'êtres humains, nous sommes le dos tourné à Dieu. Parfois même en le cherchant. Seigneur, où es-tu ? Il est derrière. Et le Saint-Esprit vient, première chose qu'il fait, il nous tourne à 180. J'étais pas très fort en géométrie. À 180 degrés pour nous dire, le Seigneur, il est là, regarde-le. Et il nous consacre à Dieu. Alors après, bien sûr, ça peut être pour... En général, il y a toujours une notion de service, parce que c'est un engagement à la consécration. J'aurais presque envie de dire, vous voyez, comme pour Jésus ou les disciples, pour utiliser un terme plus actuel, consécration, c'est une investiture. Jésus est investi dans sa mission. Alors, si on part de ce principe, on se dit, pour se tourner vers le Seigneur, de toute façon, on est obligé d'avoir le Saint-Esprit. Qu'en est-il après de tâches qu'il nous confie, des services qu'il nous demande d'accomplir ? Je vais vous prendre un exemple très très simple. Nous avons pris la scène à l'instant. Eh bien, je me dis que on est quand même tous assez intelligents pour comprendre avec nos cerveaux. Qu'est-ce qui se passe là ? Que c'est un signe, que le pain représente le corps du Christ, le vin représente son sang, et c'est suffisamment bien expliqué dans la Bible que voilà, c'est en mémoire du sacrifice de Jésus. Tout ça, on peut le comprendre parfaitement. Mais j'affirme, et je signe, que nous ne pouvons pas discerner véritablement le corps du Christ et le sang du Christ si le Saint-Esprit n'est pas venu sur nous. Nous faire cette rotation à 180 degrés, dire « Regarde le Seigneur ». Nous faisons des gestes, oui, et puis sur le plan intellectuel, nous les comprenons, mais nous ne pouvons pas être en véritable communion avec Dieu. Pour ça que, vous avez remarqué que chaque dimanche, avant de prendre le repas, nous invoquons sur nous le Saint-Esprit. Alors si c'est juste une parole en l'air pour faire jouer dans la liturgie, pour remplir, pour faire passer le temps, c'est nul. Non, le Saint-Esprit est indispensable pour pouvoir nous tourner vers Dieu. Dans toutes les, même les petites choses, comme ce repas que nous prenons dimanche après dimanche. Alors, je crois qu'il ne faut surtout pas négliger que, ça j'ai déjà eu l'occasion de le dire, lorsque le Saint-Esprit vient sur un homme, alors on est d'accord, il vient le consacrer, parfois il vient lui flanquer une mission qui n'est pas facile, parce qu'il le pousse à faire tel ou tel service qui n'est pas facile, sans aller jusqu'à la mission de Jonas ou même de Jésus, parce qu'alors lui, hein, mais il ne vient jamais les mains vides. Et c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, oui, il vient vous consacrer à Dieu. Oui, ça vous engage. Oui, ça vous met au service de Dieu. Mais ça tombe bien, le Saint-Esprit, en même temps, vient vous apporter les outils, les armes, on ne va pas parler d'armes en ce moment, des outils, le courage, l'audace, la foi, le zèle, etc. Tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir réaliser ce que le Saint-Esprit nous confie. Donc, c'est un petit peu ma conclusion, mes frères et sœurs, n'ayons pas peur du Saint-Esprit. Parce que certes, il arrive avec des exigences. Il arrive avec des exigences. Il nous tourne vers Dieu, c'est pas innocent. Nous avons appris à nous mettre au service de Dieu. Mais en même temps, il amène tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas à puiser, alors, même bien au contraire, à puiser dans nos propres forces, nos propres ressources, nos propres capacités. Le Saint-Esprit, on voit ça dans les Épîtres, le Saint-Esprit nous offre ses dons, les dons du Saint-Esprit, qui nous permettent de réaliser tout ce qu'il nous confie. Alors, cessons de voir ce de Saint-Esprit comme, j'ai dit tout à l'heure, oui, l'appel de sainteté, il dira, quand j'aurai le Saint-Esprit, je serai un chrétien plus. C'est pas du tout le but. C'est pas du tout le but. Cessons d'avoir peur du Saint-Esprit. Réalisons que lorsque nous sommes touchés par le Saint-Esprit, eh bien, nous n'avons aucune raison de redouter la tâche qu'il nous a confiée. Amen.